Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Siobhan Delegue. Bonjour Siobhan.
Bonjour Virginie.
Alors Siobhan fait partie de tous ces professionnels qui travaillent avec les chevaux et s'intéressent à leur bien-être et dans le cas présent, à la bonne santé des pieds des équidés, puisque Siobhan est maréchal ferrant. Mais avant d'en savoir un peu plus sur sa pratique, j'imagine Siobhan que tout a commencé avec l'amour du cheval.
Exactement, la passion de l'équitation. J'ai baigné dedans depuis toute petite. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à monter à cheval et ça a toujours été un échappatoire pour moi. Quelque chose de très agréable, hein. Les chevaux, on le sait, c'est un animal éponge et qui prend toutes nos émotions. Et du coup, c'est parti de là et de passion et puis de curiosité à voir le maréchal ferrant qui venait au centre équestre. Avoir la fumée quand il brûlait la corne. Et puis plus tard, à l'âge de 20 ans, je me suis dit que j'allais reprendre mes études parce que j'ai fait un circuit classique et que je voulais quand même allier mon métier à ma passion. Et j'étais très curieuse et j'avais envie d'acquérir des nouvelles compétences. Donc j'ai fait la formation maréchal ferrant, le CAP.
Mais ça c'est assez inédit, je veux dire maréchal ferrant, moi quand je pense à maréchal ferrant, je pense souvent à un homme très très costaud et là nous avons une jeune femme. Donc en fait, ce qui vous a poussé vers ce métier, c'est quoi? C'est les pieds? C'est l'odeur? Vous évoquiez tout à l'heure la fumée. C'est quoi? Parce que ça aurait pu être vétérinaire.
C'est vrai, c'est vrai. Au début, c'était la curiosité. Curiosité plus l'amour des chevaux. Et puis clairement, entre vétérinaire et maréchal ferrant, il y a un nombre d'études bien différents. Et donc, je pense que ça a joué aussi dans la balance. Donc, pour le coup, c'était vraiment ça qui m'a mis sur ce chemin-là. Et je suis partie sur la formation de maréchal ferrant à la base, pas pour forcément m'installer, mais pour prendre vraiment des connaissances en plus. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu du cheval, mais je m'étais dit que cette formation allait être bénéfique dans tous les cas.
Et donc, du coup, ce travail sur les pieds, ça vous a, ouvert des horizons? Qu'est-ce que ça vous a appris et vous a donné envie de vraiment de vous y consacrer?
Mais toujours pareil, en fait, c'est toujours finalement j'allie quand même mon métier avec mon échappatoire, comme tous en fait, tout être humain a besoin un peu de d'évacuer ses émotions avec des activités et d'allier ces deux choses-là, c'est quand même assez magnifique. Pas tout le monde peut le faire et donc voilà, c'est tout simplement.
Quand vous êtes là face aux pieds des chevaux, et en plus ce qui vous caractérise, c'est que c'est le parage. Hein,
c'est ça.
Et on sait que pour que la corne pousse, hein, de même que nos ongles poussent, la corne des chevaux pousse. Et donc, ils doivent être parés régulièrement. Mais il y a, comme vous m'avez expliqué, différents types de parages. Hein, le parage physiologique et le parage naturel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre les deux?
C'est ça. Alors, en fait, quand je me qualifie, moi, je suis pareuse. Donc, j'ai la formation maréchal ferrant, mais je fais que du parage. Et quand je dis parage naturel et parage physiologique, en fait, parage naturel, c'est le premier mot qui est arrivé en France. C'est un mot qui vient des États-Unis. Et donc, on part sur un modèle standard de pied. Vous allez voir avec mes explications qui, forcément, c'est pas le bon terme à utiliser. Donc, on part sur un seul modèle de pied, ça vient des États-Unis. Et du coup, c'est un modèle de pied unique qu'on fait sur les Mustangs. Donc, on prend pas en compte toutes les activités, l'âge, la race, pas du tout. On met tout le monde sur le même modèle. Alors que le parage physiologique, c'est un terme qui est du coup bien plus moderne. Et du coup, c'est beaucoup plus en adéquation avec ce que je fais parce que je prends tout en compte les caractéristiques comme l'âge, la race, l'activité, les aplombs particuliers, etc. Donc, pour moi, le terme que j'utilise quand même, c'est parage physiologique, qui est plus encore en accord avec ce que je fais, malgré que le mot parage naturel est quand même bien ancré. Donc, c'est pour ça que j'utilise les deux termes. Mais moi, dans mon activité, je fais du parage physiologique.
Alors, le parage, c'est vrai qu'on avait tendance à l'utiliser essentiellement pour les chevaux au pré, hein, pendant très très longtemps. Et notamment, il est très important pour tout ce qui est des pathologies, hein. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs. Hein. Quel type de pathologie hein, vous rencontrez avec les pieds des chevaux et des ânes, hein, puisque vous vous occupez aussi des ânes. Hein. Et surtout, j'allais dire, en ce moment, on a eu beaucoup de pluie et beaucoup de boue.
Oui, Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de boues et les problèmes qui reviennent assez fréquemment, on va être sur de la fourchette pourrie parce que manque d'entretien et forcément pied souvent dans l'humidité et on va avoir des gales de boue, on va avoir des fourmilières. Donc ça, c'est vraiment sur la période hivernale, pour moi, les problématiques et les pathologies que je rencontre le plus souvent.
Autre chose, puisqu'on parle de parage, hein, donc ça veut dire qu'on va bouger, on va avoir un effet sur la manière dont le cheval va marcher, puisqu'on va toucher, on va lui couper de la corne. Et donc, c'est une question, je crois, qui revient souvent, Siobhan. Est-ce qu'il est normal qu'un cheval boite après un parage ?
Alors, non, pour moi, c'est pas normal. En fait, notre rôle est quand même d'optimiser la locomotion du cheval. Donc, de prévenir éventuellement des dégradations qui pourraient arriver. Et à part dans des cas pathologiques où on sait à l'avance qu'il va y avoir des sensibilités, parce qu'on a un pied qui est boiteux à notre arrivée ou un pied en souffrance, qu'on doit retravailler les aplombs qui sont déjà figés. Là, je suis assez d'accord que effectivement, il peut y avoir des boiteries, mais c'est pas à cause de nous qu'il va y avoir cette boiterie. Donc, on a quand même des moyens techniques comme des bandes, des chaussettes, des hipposandales, des plaques brochées ou non. Du coup, pour le coup, on peut aussi les coller, ou bien même des fers vraiment dans le cas pour moi extrême.
Ça serait de manière thérapeutique de mettre les fers, ça.
C'est ça. Mais sur vraiment des grosses pathologies avec des décalements de phalanges, mais là, c'est vraiment dans le détail. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a, au-delà des maréchals ferrants, on a aussi des podologues maintenant dans les quins et qui sont beaucoup plus calés là-dessus. Mais donc, effectivement, rarement, on doit avoir quand même un cheval qui boite après un parage.
Oui, donc si la boiterie, c'est lié à un état antérieur du cheval avant que vous interveniez sur ses pieds.
C'est ça.
Question, est-ce que les chevaux peuvent être pieds nus en permanence?
En fait, c'est, pour moi, la question serait plutôt, est-ce que tous les propriétaires pourraient mettre leurs chevaux pieds nus? Parce que, en fait, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. En mettant son cheval pieds nus, on change complètement d'optique. Donc, du coup, ça demande du temps et de l'investissement. Pour le propriétaire, c'est pas facile. On est obligé de prendre conscience de beaucoup de choses dont on faisait pas attention avant, et donc de mieux comprendre notre cheval. Du coup, c'est toute une remise en question. C'est bien plus complexe que ça. De plus, quand je parle d'investissement, ça peut être un investissement financier pour le propriétaire. Parce que de la part du podologue ou du maréchal ferrant, on va peut-être demander un suivi beaucoup plus régulier. Donc, ça demande d'essayer des nouvelles choses en transition. On peut peut-être vous demander aussi des hipposandales. Donc, financièrement, c'est un investissement. Et ça demande au propriétaire de faire des recherches, d'essayer des nouvelles choses. Ça demande de sortir de son confort. Voilà, c'est quand même un peu difficile à accepter. Donc, c'est un peu compliqué pour le propriétaire parce qu'il a peut-être appris des choses, il a mal appris ou des choses un peu erronées qui jouent sur le fait de est-ce que je mets mon cheval pieds nus ou pas. Est-ce que la question aussi, c'est est-ce que vous êtes capable de vous occuper d'un cheval pieds nus?
Alors, avant d'aller plus loin sur cette question, nous allons maintenant écouter A Horse With No Name du groupe America, qui est le choix de Siobhan. Un petit commentaire sur cette chanson?
Oui, je voulais rester quand même dans le contexte et dans ce qu'on parle. Et du coup, j'ai quand même choisi cette musique qui parle du désert et d'un homme à cheval dans le désert.
Super. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la
To be out of the rain in the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Voilà de retour en studio avec notre invité, Siobhan, qui est maréchal ferrant. Et nous évoquions tout à l'heure le fait que voilà, c'était pas facile pour les clients de penser à mettre leurs chevaux pieds nus. Et d'autant plus, j'imagine, Siobhan, que ça dépend des activités que font les chevaux. Parce que le cheval soit un cheval de course, cheval de randonnée, cheval de dressage qui travaille en manège, les pieds ne sont pas sollicités de la même manière.
Exactement, d'où la définition du parage physiologique. En fait, je vais vraiment prendre en compte ces caractéristiques-là. Le but, c'est vraiment que je le mette dans le confort. Donc forcément, s'il travaille sur un terrain meuble et celui qui va randonner dans le... dans les rougiers, ce sera pas exactement la même coupe, même si je me base quand même sur les aplombs. Maintenant, on a quand même d'autres possibilités, comme des plaques ou des hypo-sandales pour les débuts après la coupe, quand ils sont un petit peu sensibles, pouvoir mettre des hypo-sandales le temps qu'il y ait une deuxième coupe.
Quand un cheval n'est pas ferré, c'est-à-dire quand on lui met pas un fer avec des clous sur le pied et qu'il est toujours habitué à marcher pieds nus, est-ce que la corne durcit ?
Oui, mais en fait, c'est comme nous. Si on se met à marcher pieds nus dehors, sans chaussures, à un moment donné, on va avoir la corne qui durcit et on sentira beaucoup moins les graviers, les cailloux, etc. Donc, pour les chevaux, c'est un peu près pareil, en fait. C'est un temps d'adaptation qui, pour moi, arrive quand même assez vite.
Et donc, du coup, j'imagine que cette corne durcie leur permet d'user moins leurs sabots, ou pas ?
Alors, l'usure... Je sais pas si vraiment ça a un impact sur l'usure en général du sabot. Je pense surtout qu'ils seront beaucoup moins sensibles qu'au départ, comme un cheval qui a été ferré pendant 10 ans et qu'on défère. Au début, c'est très compliqué pour lui. C'est comme nous. Voilà, On vient toujours à la même chose, c'est comme nous.
Oui, quand on est habitué à marcher dans des chaussures bien serrées, bien fermées, que brusquement on se retrouve pieds nus ou avec des sandales très légères. Alors, pour être aussi précis pour nos interlocuteurs qui ne savent pas forcément ce que c'est que le parage, quels sont vos outils? À quoi ça consiste exactement?
Alors, mes outils, première chose que je fais, je vais faire à peu près la même chose que vous en tant que particulier, je vais mettre un coup de cure-pied pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, regarder ma ligne blanche, regarder ma sole, où elle en est, et regarder un petit peu ce qui se passe, regarder s'il y a des pourritures, etc. Et après, j'ai des tenailles, enfin, j'ai des outils assez classiques. J'ai une rainette, donc c'est avec ça souvent qu'on va couper la fourchette. J'ai un rogne-pied, donc c'est un couteau avec un marteau, et souvent c'est avec ça que je dégrossis un petit peu la sole. Et j'ai ma tenaille, dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, c'est à peu près tout. Et puis, je viens assez régulièrement. J'essaye de venir toutes les 8 à 10 semaines pour garder des aplombs à peu près corrects. Parce que dès qu'il y a un peu de pied un peu trop long, ça me bouge tous les aplombs. Et forcément, les problèmes ne sont pas forcément que dans le pied, mais se répertorient sur les hanches, sur pas mal d'endroits du corps du cheval. Donc c'est quand même un rendez-vous régulier, le parage, même si ce n'est pas du ferrage.
Et j'imagine que quand vous entrez dans un pré ou dans un box et que vous vous retrouvez face à un animal que vous ne connaissez pas ou peu, ben, la plupart du temps ça se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe quand le cheval ou l'âne est récalcitrant? Et pourquoi sont-ils récalcitrants face à vous?
Je pense la qualité première, il faut être patient. Il faut être patient. C'est un métier compliqué. On travaille avec des êtres vivants. Et forcément, en fonction de leur caractère ou bien même de la météo, ça peut bouger. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver face à des chevaux qui donnaient pas les pieds. Et il faut savoir quand même que nous, maréchal ou pareur, on est quand même dans des positions assez complexes. Il faut quand même penser à nous parce que au-delà d'avoir le poids du cheval, on est sous son ventre. On est quand même sur les postérieurs posés sur nos cuisses. Donc c'est vrai qu'il peut arriver des accidents assez vite. Souvent c'est de la patience. Ça peut arriver que je m'entende avec le propriétaire pour faire un petit peu d'éducation, parce que c'est vrai que moi, avec les années, je me suis penchée sur une équitation un peu plus éthique. Donc, je propose aussi un peu de débourrage et des cours d'éducation, de patience et de désensibilisation pour préparer le terrain quand moi, j'arrive. Et il faut prendre aussi en compte des fois les peurs des chevaux, parce que c'est vrai qu'une mauvaise expérience, enfin, ils l'enregistrent assez vite.
Et du coup, ils ont une bonne mémoire. Hein.
Voilà, c'est ça. Et c'est un peu compliqué pour moi qu'arrive derrière si le cheval, pendant un an, il n'a pas été paré ou qu'il a été paré mais très mal et qu'il a boité pendant 3 mois. Forcément, il a enregistré cette douleur-là, cette douleur fantôme que j'appelle. Et quand j'arrive, c'est beaucoup plus compliqué pour moi.
Oui, donc là, c'est tout un apprentissage à remettre, enfin, à repartir à zéro.
C'est
ça. Et puis aussi, il y a aussi, je pense aussi, parfois, chez les propriétaires, un stress face à ces douleurs fantômes et puis face aussi au maréchal ferrant. C'est un peu comme on amène ses enfants chez le dentiste également. Vous avez quel type de clients, Siobhan? Vous adressez ce sont des centres équestres, des clients en particulier?
Pour la prospection, j'essaye d'avoir le plus de clients différents possibles, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi pour moi. Pour le moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de particuliers. En général, ça peut être pour un cheval, pour un âne, pour même des gens qui ont plusieurs chevaux. J'ai aussi un petit élevage de chevaux arabes. Enfin, c'est assez différent.
Alors, vous êtes basé dans le sud d'Aveyron, du côté de Sainte-Afrique. Alors, jusqu'où allez-vous et comment on peut vous contacter?
Alors, je me déplace, je dirais, sur un cercle de 1 heure. Maintenant, ça dépend si vraiment mon travail vous intéresse et que vous êtes plusieurs particuliers, par exemple, à vous regrouper et que j'ai 2 heures de route, ça me dérange pas de me déplacer. Ça, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, de Sainte-Afrique, je peux aller à Albi, je vais à Rodez. Enfin, c'est pas du tout dérangeant. Et pour me contacter, on peut me contacter par mail sur sd.parage@gmail.com ou par Instagram, c'est sdparage.
On remettra ça sur la page Facebook de l'émission. Notre émission touche à sa fin. Auriez-vous un dernier petit conseil pour nos auditeurs afin d'avoir un beau pied, un bon entretien?
Oui, j'ai des conseils sur l'entretien du pied en général et c'est vrai que c'est cool parce que ça nous prépare un petit peu le terrain avant qu'on arrive. Donc, toujours avec votre cure-pied et moi, ce que j'utilise, c'est une brosse métallique. Et surtout, regarder, nettoyer les lacunes, bien brosser avec la brosse métallique toute la surface plane, la sole, etc. Et regarder surtout la ligne blanche, donc la ligne blanche qui est entre la paroi interne et la sole, qui fait le tour de la sole. Aller avec un petit outil, certainement l'angle du cure-pied ou l'angle de la brosse métallique, regarder s'il n'y a pas des petits graviers ou qui pourraient créer des crevasses. Et puis désinfecter avec un produit soit de magasin ou de vétérinaire, soit un produit fait maison, un petit peu la fourchette, surtout avec ces temps humides. Et voilà tout.
Merci Siobhan de Gael. Notre émission est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à la semaine prochaine.